Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Manifestement, une émission qui veut apporter sa pierre à l'édifice en proposant un regard critique sur l'actualité. Notre point de départ sont des articles publiés sur un site d'information mutuelle, manif-est.info. Et l'idée est simplement d'approfondir des sujets à partir de ces articles. Par ailleurs, trois brèves vous seront proposées. L'agenda, l'actualité des tôles dans le Grand Est et des conseils de lecture, du moins des publications qui sont disponibles à l'infokiosque du Molodeuil. Alors moi je suis H, cette émission ce sera mon point de vue, donc un point de vue pas de spécialiste mais un point de vue de très modeste. Je suis parti à la recherche à travers articles sur internet, dans les journaux, et je vous propose une vue critique de la chose. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est bien connu pour pas mal d'Alsaciens du côté de Mulhouse, c'est le dossier Stocamine. Un dossier que je ne connaissais point avant cette émission et que j'ai essayé de fouiller au plus, donc il est très probable que des erreurs apparaissent, mais l'idée n'est pas d'être tout à fait exhaustif. Voilà, j'espère que cette émission va vous plaire. Stocamine, pour commencer, c'est le nom d'une filiale qui appartient à la Société des Mines de Potasse d'Alsace et qui a été active de 1991 à 2014. L'activité de Stocamine, c'était le traitement et l'élimination des déchets dangereux. Qu'est-ce que c'est un déchet dangereux? Donc, il catégorise ça en catégorie 0 et catégorie 1. Il y a l'amiante, par exemple, mais il y a aussi le mercure, l'arsenic, etc. Et pourquoi à cet endroit? Parce que à Stocamine, à Wittenheim, il y avait des mines de potasse. Un petit mot sur les mines de potasse. Les mines de potasse ont ouvert de manière industrielle en Alsace au début du siècle. Elles sont là pour prendre de la potasse qui va servir essentiellement à faire de l'engrais. Elles ont fermé à partir du moment où les filons se sont amoindris, hein, ils se sont épuisés, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'a été réfléchie une transformation des sites pour en faire un centre d'enfouissement de déchets qui pourrait accueillir arsenic, mercure, cyanure, amiante, métaux lourds, etc. Bien entendu, la population est plutôt sceptique à recevoir ce genre de déchets sur son territoire, mais en fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà que je crois qu'on peut dire que les ouvriers qui ont bossé dans ces mines, les mineurs en fait, sont partis plus ou moins bien lotis parce que il y avait un syndicat fort. Les syndicats étaient forts à ce moment-là et en fait, ils ont réussi à bien négocier pour pas qu'ils se retrouvent sur la paille. Donc, il n'y a pas eu d'opposition de ce côté-là et que pour la population en général, il y avait cette notion de réversibilité qui a été introduite par le gouvernement à l'époque. Qui fait que la population en fait a accepté. Je voudrais dire un petit mot aussi sur les mineurs. Il faut savoir que à Wittenheim, en Alsace, il y a en fait sur l'exploitation des mines de potasse, il y a 800 travailleurs qui sont décédés lors d'accidents qui sont survenus dans ces mines. Un mémorial se trouve avec l'ensemble des noms à Wittenheim, justement. Moi, c'est un chiffre qui m'a quand même assez impressionné. Et en fait, les morts, généralement, c'était pas des morts individuelles, c'est plutôt souvent des morts collectives, dans des coups de grisou, par exemple, où soudainement 25 personnes disparaissent. Donc, pour revenir à Stocamine, au projet Stocamine, c'est-à-dire au traitement et à l'élimination de déchets dangereux, tout se passe bien jusqu'en 2002. Mais avant ça, quelques chiffres. En fait, des chiffres très simples. L'ambition de cette mine était à la base de stocker 320 000 tonnes de déchets dangereux dans cette mine de potasse, donc à Wittenheim. Mais malheureusement ou heureusement, cela n'a pas pu avoir lieu pour une chose qui est simple et tragique à la fois, c'est qu'en 2002, le 10 septembre, un incendie a lieu dans la mine. Extraordinaire. En 2002, il y avait déjà 42 000 tonnes de déchets toxiques qui étaient enfouis dans cette mine. Il n'y a pas toute la pas tous les déchets qui ont brûlé, bien entendu, mais c'est quand même un incendie qui a eu son importance et qui a été maîtrisé au bout de 2 mois par les pompiers, en fait, parce que c'est donc très compliqué les feux dans des mines, et c'est très dangereux, quoi. Ça nous rappelle d'ailleurs un accident, je pense, dans un centre d'enfouissement de déchets nucléaires aux États-Unis, où c'est à peu près la même chose qui s'est passée. Voilà, c'est des choses qu'ils n'avaient pas prévues à l'avance. D'ailleurs, on verra par la suite qu'il y a beaucoup de choses qu'ils prévoient et qui ne fonctionnent pas comme ils voudraient, quoi. Quand je dis ils, c'est donc à la fois le gouvernement et à la fois les entreprises qui ont bossé pour ces mines, donc les capitalistes, si on veut dire. Donc le 10 septembre 2002, un incendie a lieu, et cet incendie, il est provoqué par une réaction chimique à cause de déchets qui proviennent d'un big bag. Donc c'est un big bag, en fait, c'est un sac où les déchets sont mis dedans, c'est une espèce de grand sac poubelle, quoi. Voilà, c'est comme ça que sont enfouis les déchets dans la mine, soit en big bag, soit dans des fûts. Et là, précisément, c'était un big bag qui venait d'une usine. Une usine qui s'appelle Solupac. Une usine qui conditionnait des pesticides et des engrais agricoles. Et cette usine a pris feu. Et donc, la poubelle Stocamine, qui est en fait le seul site en France où, en fait, où on peut enfuir des déchets dangereux, eh ben, était, ben, de, devait accueillir ces déchets-là, donc des déchets des détritus d'incendie de cette usine de pesticides et d'engrais agricoles. Mais ces déchets, que ces big bags, n'ont pas été contrôlés à l'arrivée à Stocamine. Alors pourquoi? C'est peut-être un peu anecdotique, mais je pense que c'est assez important de comprendre les enjeux un peu économiques qu'il y a, enfin je dirais capitalistes, quoi. En fait, normalement, les big bags sont vérifiés avant l'entrée dans la mine. Mais en fait, sauf certains, ce sont les déchets avec de l'amiante pour ne pas, en fait, causer de problèmes aux ouvriers, en fait. Et donc le big bag en question, les big bags en question étaient donc mentionnés en tant que big bag contenant de l'amiante, donc non ouvert. D'après une enquête qui a eu lieu suite à l'incendie et qui a donné lieu à des sanctions. D'après cette enquête, les ouvriers justement sur le site ont en fait trouvé ces déchets louches. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une odeur très forte de soufre. Mais la direction a toujours a appuyé le fait qu'il fallait les enfuir. Elle a foutu la pression aux ouvriers pour qu'ils mettent ces déchets dans la mine. Et même quand la sous-direction demande qu'une enquête soit menée, du moins qu'on aille voir à l'usine Solupac qu'est-ce qui se passe, et la direction refuse. Pourquoi la direction refuse? Ça, c'est aussi intéressant. En fait, donc la direction, c'est le directeur, tout simplement. À ce moment-là, juste avant l'incendie, Stocamine est détenue à 70% par l'État, enfin par plus précisément par la société des mines de potasse d'Alsace. Mais 30% restants sont vendus à une boîte qui s'appelle Trédisèche Et en fait, Trédi Sèche, donc séché en environnement, c'est une boîte des plus capitalistes qui existe et donc qui veut faire de la thune et du coup, qui demande à ce qu'il y ait le plus de déchets qui soient descendus dans ces. En fait, eux, ils doivent acheter des déchets à traiter et puis ils doivent les traiter. Donc, ils avaient acheté des pourcentages des parts dans Stocamine pour pouvoir balancer leurs déchets dans les mines de Wittenheim. Donc, tout simplement, ils foutaient la pression pour que, en fait, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et donc la direction a suivi la part, on va dire, capitaliste de Stocamine et du coup a fait en sorte que ces déchets rentrent alors même qu'ils n'étaient pas vérifiés et qu'ils sentaient très fort le soufre et que plusieurs personnes ont disait qu'il y avait un problème, quoi. Résultat des courses, bien entendu, les big bags prennent feu et voilà que l'incendie fait rage. Alors, bien sûr, il y a eu un procès qui a eu lieu en 2009. Et ça, c'est encore une fois hallucinant de comment, en fait, ces salauds arrivent à s'en sortir. Déjà, pour commencer par Séché, en fait, Séché est simplement parti avant le procès. Donc, ils ont eu aucune. Comment dire, plainte, ils ont pu, ils s'en sont sortis les mains blanches, quoi. Pour eux, c'est voilà. Et la direction, donc le directeur, lui, en effet, a été condamné puisque d'après le tribunal, le directeur était au courant que ces déchets pouvaient être dangereux. Puisque c'était un spécialiste de la question, donc il a été condamné vraiment à quelque chose de très difficile. Je me rappelle, je trouve plus la condamnation, mais c'était vraiment ridicule. C'était quelques mois de sursis. Et en fait, ce salaud a réussi à faire appel et a été finalement condamné à 5 000 euros d'amende. Donc, ce qui fait quand même un peu halluciner, quoi. Alors. Donc il s'en est plutôt bien sorti. Donc ça c'est pour la partie incendie. Alors dès le début, bien entendu, il y a des opposants à cette histoire. Comme je disais, même si au tout début, même si on va dire la majorité de la population n'a pas forcément suivi, dès le début, il y a des mobilisations. Et les mobilisations, rapidement, elles se tournent aussi sur la question de la nappe phréatique, donc qui est un deuxième problème, qui est un deuxième problème. Mais avant d'entamer la question de la nappe phréatique, je vous propose d'écouter un groupe qui s'appelle Zone Infinie et la chanson c'est Dans le tunnel. À tout de suite.
Je suis
Alors, revenons à nos moutons. En 2007, en 2017, donc pas mal de plus de 10 ans après l'incendie, l'État annonce qu'il est possible de continuer à stocker dans les souterrains de Stocamine. Mais il annonce aussi que, avant cela, 90% des déchets dangereux, en fait, plus précisément, de mercure, devront être enlevés de la mine. Et pourquoi? Parce que d'après eux, mais vous verrez que pas que d'après eux, le mercure représente une pollution dangereuse, très dangereuse pour la nappe phréatique. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de nappe phréatique? En fait, très rapidement, enfin dès les années 2000, les opposants, dont il faut quand même le dire, un certain nombre d'anciens mineurs font partie, en fait, annoncent que l'enfouissement de déchets dans les mines de Stocamine, c'est extrêmement dangereux, et c'est extrêmement dangereux, entre autres, par rapport à la nappe phréatique, puisque les mines de potasse sont situées sous la nappe phréatique. Et le risque est bien entendu que les mines percent et donc que la flotte en fait se retrouve à inonder en fait tous les déchets. Et c'est d'ailleurs pas un risque puisqu'ils n'en parlaient pas au début, mais très rapidement le BRGM, donc le Bureau d'études en gros en français sur les mines, annonce que cela arrivera dans très longtemps. Sauf que très vite, en fait, on se rend compte que non, ça va arriver bien bien plus vite que prévu. Voilà pourquoi en 2017, l'État annonce qu'en fait, on va pouvoir stocker, mais par contre, il faut enlever le mercure, parce que le mercure, c'est dangereux pour la nappe phréatique. Donc, à partir du moment où on enlève le mercure, il n'y aura pas de problème, puisque les autres déchets, en fait, seraient apparemment pas dangereux pour la nappe phréatique, quoi. Et donc, comme dit, les anciens mineurs, eux, ça faisait déjà un bout de temps qu'ils disaient qu'en fait, c'est complètement débile, que l'eau va s'infiltrer dans les galeries, qu'elle va se mélanger aux déchets toxiques et qui, en fait, ça va envahir toute la mine. Et ensuite, l'eau polluée va remonter jusqu'à la nappe phréatique. Donc, voilà, ça, c'est un mineur, c'est Étienne Chamic qui dit ça, un mineur retraité qui, en fait, connaît très bien la mine de là-bas, qui a travaillé pendant 32 années, quoi. Et en fait, voilà, les arguments de l'État, c'est qu'en fait, des barrages seront fabriqués. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant à creuser aussi. C'est la question de ce qu'on pourrait appeler la décontamination, du moins le maintien de la contamination, le maintien de la toxicité dans les endroits bien précis. Donc la seule solution qu'ils ont, c'est donc de faire des espèces de murs, des murs barrages qui construisent autour du stockage pour retarder en fait la pollution, quoi. Mais en fait, par ailleurs, l'État le dit lui-même, c'est pour retarder. Donc en fait, la pollution arrivera de fait à un moment donné, quoi. Donc c'est quand même un peu hallucinant. Il faut voir comment. Donc on a eu la visite de la ministre, de la ministre. Enfin, il y a eu la visite de la ministre à Stocamine la semaine dernière, qui dans les journaux locaux parle quand même d'une goutte d'eau dans une piscine olympique. Donc c'est quand même son argument pour dire que c'est pas dangereux en fait. Donc pour ma part, je pense que il est possible en effet que l'opposition exagère certaines positions, en fait, en tant qu'opposition, on exagère les risques de pollution. Mais je trouve que pour l'État, en fait, c'est quand même hallucinant d'avoir comme argument le fait que bon, bah, c'est pas grand-chose. Et ça nous renvoie vraiment à toutes les questions autour du nucléaire, autour de Fukushima par exemple. Qu'est-ce qu'ils font des déchets qu'ils ont recueillis dans les dans des enfin la flotte par exemple, qui décident maintenant de diluer dans la mer. Bon, c'est tout un autre sujet, mais on voit bien que les déchets toxiques et les déchets radioactifs, il y a vraiment des similitudes. Petite parenthèse, donc pourquoi je parle de Stocamine? Parce que sur le site manif.fr est.info. Il y avait un communiqué du CEDRAC, qui est donc le collectif, le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, qui a fait un communiqué contre Stocamine. Voilà pourquoi voilà, je me suis intéressé à ce sujet. Donc voilà, ces histoires de nappes phréatiques donc, qui pose problème et qui sont en fait l'argument principal de l'opposition. En fait, ces 40 000 tonnes de déchets toxiques risquent en fait de un jour ou l'autre arriver dans la nappe phréatique et beaucoup plus rapidement que prévu, puisque en fait les mines sont en train de s'effondrer, donc l'eau va finir par passer quoi donc c'est il y a une espèce de timing. On reviendra un peu plus tard sur ce timing par rapport à la mobilisation comment ça se fait qu'en fait il n'y a pas de mobilisation plus active quoi. Bon, j'aimerais juste revenir donc sur en fait ce que l'État propose. Donc, comme je disais, l'État propose de faire des espèces de murs. Donc, il faut revenir sur le communiqué du CEDRA. Pourquoi le CEDRA a fait un communiqué? Parce que donc la visite de la ministre a entériné une décision qui est, je pense, pour les opposants assez importante. C'est qu'en fait, elle a entériné le fait que les déchets resteront dans la mine. Parce qu'en fait, depuis le début, la demande des opposants, c'est de sortir ces déchets. Et en fait, ils ne le font pas. Et ils ne le font pas alors qu'en fait, en réalité, du moins en Europe, on a l'expérience. Enfin, désolé de parler en on. En Europe, il y a l'expérience de sortir des déchets de mines. Ça se fait, ça s'est fait. Mais ça coûte extrêmement cher. Donc en fait, ils préfèrent, comme d'habitude, sur des projets comme ça, ils préfèrent en fait restreindre la contamination, mettre des murs, mettre des choses, des trucs. Mais par contre, ils vont pas prendre le problème à la racine. Et donc voilà, ça a été entériné suite à la sortie donc du mercure. Donc 93% du mercure qui devait être sorti est sorti, ce qui équivaut à 2000 tonnes de déchets toxiques. Et donc il reste donc au jour d'aujourd'hui 46 000 tonnes de déchets toxiques dans cette mine. Le problème, c'est comme je le disais tout à l'heure, et ça c'est soulevé par plusieurs anciens mineurs, les mines sont en train de s'effondrer. Donc on est vraiment dans un timing qui en effet fait un peu flipper, puisque à un moment donné, on n'arrivera plus à sortir ces déchets parce qu'ils seront écrasés sous la terre, quoi. Enfin, sous je sais pas quoi, mais. Enfin. Et malheureusement, là, c'est voilà, c'est la décision de l'État a été de les laisser. Donc, en fait, en disant de toute façon, le jour où la nappe phréatique est atteinte, ce sera une goutte d'eau dans une piscine olympique. Donc, l'État a aussi par ailleurs donné un espèce de chèque de 500 millions d'euros, je crois. On s'en fiche un peu des chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc c'est un chèque pour la dépollution des terres à la surface, la dépollution à la surface pour la nappe phréatique en Alsace, quoi. Et en fait, ça, c'est un peu ridicule parce que 500 millions d'euros, c'est genre que de chi pour la dépollution, puisque on évalue la simple dépollution d'un site à Colmar, enfin Logelbach plus précisément, d'un site où en fait à l'époque une industrie pharmaceutique a déposé ses déchets sur un terrain vague et a fait ça sur plusieurs sites en Alsace et dans toute bonne conscience. Et en fait, ils se sont retrouvés aujourd'hui, on découvre que ces terrains sont extrêmement polluants. Et qui en fait risque de pareil de traverser la nappe phréatique. Et en fait, la dépollution de ce genre de site, c'est déjà la moitié du budget. Donc, pour dépolluer, en fait, dépolluer, enfin, pour réussir à faire quelque chose à Stockamine, par exemple, c'est complètement ridicule. C'est vraiment comme s'ils donnaient 10 euros, quoi. Donc, je pense que là, bon, voilà, en fait, c'est un peu tragique ce qui est en train de se passer. Donc voilà où on en est. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains temps. Donc avec le Covid, bien sûr, les rassemblements, ils sont vraiment moindres. Mais on va revenir sur ces histoires de d'opposition qui sont quand même très questionnantes aussi. Qui sont quand même très questionnantes aussi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, enfin de ce que je sais. Je voudrais rappeler juste deux choses, c'est que donc en effet moi j'y connaissais rien à ce sujet. J'ai un peu donc je viens donc de l'est de la France. Je suis un peu tombé des nues quand j'ai compris ce qui s'y passait parce que en fait je me suis jamais intéressé à cette opposition alors que à d'autres oui. Et ça m'a beaucoup questionné de la raison pour laquelle pourquoi en fait je me suis jamais intéressé à ça quoi. Donc je vais ramener tout à l'heure quelques éléments de réponse voilà, quelques éléments de réponse, mais c'est vrai que c'est un peu questionnant. Bon, j'ai sûrement fait pas mal d'erreurs sur les chiffres, entre autres. Je pense que c'est pas très important. Je pense que l'idée, c'est d'avoir un fil, de comprendre un peu ce qui s'y trame. Je crois qu'on est très peu à comprendre en fait à peu près ce qui s'y passe. J'aurais bien voulu dire plein d'autres choses que j'ai oubliées, mais si je m'en rappelle, je le dirai tout à l'heure. On va refaire une pause musique. Ouais, je vais vous proposer cette fois-ci encore du même groupe Zone Infinie, mais cette fois-ci, comment s'appelle la chanson? Je reste en ville.
Je reste en ville, et tu sais où.
Avant d'attaquer la troisième partie de cette émission, je voulais juste remettre les points sur les i à propos des déchets. Je pense qu'il est assez important de mettre en avant que les déchets, ça fait partie d'un système économique. Que les déchets, en fait, ce n'est pas des déchets, mais c'est bel et bien une marchandise. Et qu'en fait, les déchets, que ce soit les déchets qui sont chez vous, ou bien les déchets nucléaires, ou bien les déchets dangereux, ce sont des marchandises qui apportent de l'argent. Et que je pense que c'est vraiment à remettre au sein même comment dire, de Stockamine, ne pas oublier qu'en fait, y a des questions d'argent derrière. Et voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est vrai que ça nous rappelle, j'en dirai quand même un peu plus du coup, c'est vrai que ça nous rappelle quand même beaucoup la question des déchets du nucléaire, la manière dont on essaye de gérer ça, mais aussi la manière dont on peut nous, essayer de nous, de, dont on nous fait trier de plus en plus, alors que parallèlement, les entreprises de tri, eux, gagnent plein d'argent, puisque c'est généralement des entreprises privées. Voilà, point. Maintenant, en troisième partie, j'aimerais essayer de répondre à une question qui quand même m'a posé, que je me suis posée. C'est comment se fait-il que, en tant qu'habitant du Grand Est, enfin, du moins de l'Est de la France, Stockamine ne m'est que si peu parlé. En fait, pourquoi j'ai jamais vraiment été opposant, c'est-à-dire parti. Enfin, j'ai que très, très peu rarement participé à des manifestations. Parfois, j'y suis allé sans comprendre exactement ce qui se passait. Tout ce que j'ai vu, c'était des drapeaux alsaciens. Ça me faisait un peu flipper. Mais pourtant, c'est à côté de chez moi. Et pourtant, c'est quand même, comme j'ai pu vous l'expliquer, j'espère, c'est quand même quelque chose d'un peu fou, quoi. Enfin, c'est quand même dangereux. Enfin, c'est imminent. Enfin, et comment se fait-il pourtant qu'on fasse l'impasse sur ce sujet, et pourquoi une lutte, vraiment un mouvement contre ce projet n'a pas eu lieu. Alors, je pense que je vais essayer de répondre en trois points. Il y a la question de, on va dire, l'impasse, on dirait l'impasse citoyenniste. Il y a la question aussi de la problématique de la radicalité dans le mouvement, et aussi, bien entendu, la question de la résignation qui passe aussi par la politique, par l'argent. Enfin. Pour commencer, la question du citoyennisme. En effet, le mouvement contre Stockamine s'obstine à vouloir passer, je crois, par l'État pour résoudre son problème. En fait, la problématique de Stockamine, elle se joue beaucoup dans des couloirs de politiciens, entre des ministres et des départements qui ne sont pas d'accord, qui s'opposent, mais en fait, qui ne nous intéressent pas vraiment, nous. Et alors, l'opposition citoyenne qui va donner des arguments écologiques, mais en fait. Dont en réalité on se contrefout, puisque en fait nous, du coup, dès lors je suis maintenant un opposant, un fervent opposant au projet. Moi je m'en tape complètement, en fait, de savoir, enfin, je vois bien le problème, j'ai pas besoin de politiciens pour essayer de négocier avec l'État quoi que ce soit. Et en fait, cette notion de citoyennisme est quand même très, très présente au sein de l'opposition. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Et entre autres parce que je crois qu'il y a une croyance en la démocratie pour s'opposer au capitalisme. Et je crois que c'est. Je crois pas que c'est vraiment une croyance qu'il faut continuer à avoir. Et donc, citoyennisme veut dire aussi, bien souvent, veut dire aussi non-violence. Et non-violence, pourquoi? Parce que citoyennisme veut bien souvent dire bataille sur le terrain de l'information, sur le terrain de la communication. En fait, il va falloir donner des contre comment dire des contre-projets de montrer qu'en fait le projet il est pas bien mais par contre on peut faire ci ou on peut faire ça c'est ce qui arrive habituellement que ça soit par exemple pour Fessenheim ou que ça soit pour toute opposition contre des projets capitalistes les opposants citoyennistes vont généralement travailler sur la question de qu'est-ce que quel monde on voudrait du moins quelle solution donner en fait une solution à l'État. Et en fait pour ça on doit être bien vu et donc avoir une belle communication, montrer qu'en fait on va de l'avant quoi, qu'en fait on n'est pas là pour foutre le feu à des poubelles. Et malheureusement, je pense que et ça, je crois qu'il y a j'ai pu lire dans un journal un ancien ouvrier qui raconte que lui-même disait il aurait fallu sûrement, par exemple, séquestrer les patrons à un moment donné, séquestrer des responsables, peut-être faire des actions qui aillent en fait, qui soient un peu plus violentes en fait, sachant que veut dire la violence quoi. Enfin, en fait, par exemple pour la manifestation qui a eu lieu en fait l'année dernière à Wittenheim, c'est un très bon exemple d'une manifestation où, en fait, par ailleurs, les opposants se sont auto-applaudis parce qu'on était 700 personnes. 700 personnes, c'est tout de même ridicule. Un article critique de cette manifestation a été publié sur un site que je n'apprécie pas forcément, mais l'article a été publié là-dessus sur lundi matin. Lundi matin, voilà, je sais pas comment est le nom, mais l'article en fait appuie ces choses-là. En fait, 700 personnes à Bure, donc au fin fond de la Meuse, c'est compréhensible, mais 700 personnes dans un endroit comme le sud de l'Alsace, à côté de Mulhouse, à côté de Bâle, à côté de Fribourg, ça paraît quand même un peu léger. Mais pourtant, les opposants étaient plutôt contents, tout le monde était très joyeux avec les drapeaux alsaciens et des petits masques de cigogne. Mais alors, quelques petits groupes ont tenté quelques actions, bien sûr, pas du tout suivies par la majorité des manifestants. Et en fait, voilà, c'est typiquement le genre de manif qui, en fait, on aurait un potentiel assez fort d'action et en fait on ne se donne pas comme dit l'article on ne se donne pas les moyens d'utiliser ce potentiel lui-même l'article se pose la question de est-ce que la non-violence ne protégerait pas l'État voilà moi je pense plutôt est-ce que la non-violence en fait où mène la non-violence dans ces cas-là quoi enfin Donc la non-violence aussi, ça crée quelque chose, ça crée qu'en fait, un mouvement comme ça qui dure depuis quand même 30 ans, mais en fait qui ne fait aucune vague, c'est vrai que il y a ça en fait, y a pas grand monde qui va s'y intéresser et qu'à un moment donné, en fait, on pourrait avoir la force de dépasser la bataille de l'information, en fait, en s'affirmant un peu plus précis, en s'affirmant un peu plus quoi. Bon, je pense qu'il y a bien entendu d'autres problèmes qui font que la mayonnaise n'a pas pris. Par exemple, le fait que les syndicats n'aient pas, du moins, je ne parle pas forcément de la base, puisque des anciens mineurs participent à l'opposition, mais par contre, c'est vrai que certains syndicats, enfin, voilà, les gros syndicats, genre CGTFO, ne se positionnent pas sur ce genre de sujet parce qu'en fait, c'est leur gagne-pain. Donc, c'est pas nouveau qu'en fait, ils ne font pas de vagues à ces endroits-là. Donc, je pense que si les syndicats appelaient à faire grève là-bas, en fait, il y aurait quand même un suivi, mais c'est pas le cas. Et donc voilà, ça fait que en fait la composition de l'opposition à l'heure qu'il est, elle se figure, enfin elle ne se fait que de finalement d'une espèce d'historique, donc les historiques de la lutte, si on peut dire, donc des écolos convaincus, quelques ouvriers, quelques anciens mineurs qui sont tout aussi convaincus et beaucoup trop à mon goût d'autonomistes alsaciens, des Unserland plus précisément, mais très peu de jeunes, très peu d'anarchistes, très peu d'opposants anti-autoritaires, très peu d'opposants contre les projets d'aménagement capitaliste. Donc voilà, ça questionne, mais en même temps, le mouvement ne s'est pas donné les moyens, si je peux aller dans le sens de l'article dont je parlais, ne s'est pas donné les moyens de s'opposer à ce genre d'industrie, quoi. Enfin, Et pour ça, on peut aller un peu plus loin. Je ne sais pas. Moi, je me pose la question sur l'Alsace, bien sûr. La question de la non-violence en Alsace, dans les projets d'opposition contre l'industrie, elle est claire. Enfin, depuis la construction de Fessenheim, je crois qu'il y a un livre par ailleurs qui a été écrit là-dessus, où on voit bien que c'est teinté de non-violence, qu'à l'époque à Fessenheim, il fallait signer une charte de non-violence pour entrer dans les camps des opposants, enfin les camps d'occupation. Et en fait, aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui perdure. Alors, je voudrais pas trop m'avancer là-dessus parce que, en fait, je pense pas qu'il y a quelque chose de culturel ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a un fait, c'est que sur les différentes luttes qui ont eu lieu ces derniers temps, bon, bah, particulièrement entre autres au grand contournement ouest, par exemple, hein, qui en fait. En fait, justement, à un moment donné, n'a jamais vu l'opposition grandir. Enfin, c'est pas le problème de grandir, mais ne se radicaliser ou à proprement parler, sortir des carcans de lecture citoyenniste. Et en fait, ça pose question. Mais je pense aussi à des luttes qui auraient dû avoir lieu et qui n'ont pas eu lieu. C'est par exemple la construction de la nouvelle prison de Lutterbach, où en fait une opposition a eu lieu avant la construction par la mairie, parce qu'en fait, sûrement qu'ils ne voulaient pas de ça chez eux. Mais en fait, au fond, il n'y a rien eu d'autre, parce que voilà, ils sont opposés. Bon, bah voilà, ça s'est résigné très vite, quoi. Et en fait, je pense que la résignation aussi, c'est vraiment quelque chose d'important dans la région. Et je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais en tout cas, il y a quelque chose de ça qui n'est pas trop compréhensible, quoi. On a des contre-exemples qui vont que on a un contre-exemple mais que je vais démonter en 3 secondes. C'est le contre-exemple d'Amazon à Dambach-la-Ville. Donc à Dambach, ils devaient donc faire un centre logistique de Amazon. Une opposition a lieu. Bon, bah, Amazon ne va pas chercher de midi à 14 h. Ils arrêtent le projet. Par contre, ils ont un autre propos, une autre, en fait, parallèlement, ils ont une autre idée de projet. Cette fois-ci à Ensisheim, hein, entre Decathlon et la prison, c'est quand même pas mal. En fait, il n'y a aucune opposition. Les opposants, ce sont des gens qui viennent, ben, en fait, du Bas-Rhin, parce qu'en fait, les habitants d'Ensisheim, du moins de là où veulent faire le centre logistique d'Amazon, ben, personne n'en a rien à carrer. Du coup, en fait, il y a finalement pas d'opposition, ou du moins, elle est exportée, enfin, elle est importée d'autre part. Enfin, bon. Il n'y a pas vraiment, moi je crois qu'il n'y a pas vraiment de comment dire d'intérêt, enfin c'est pas d'intérêt que je veux dire, mais bon, pour revenir, oui, sur la question de la résignation, je pense qu'en effet c'est assez marqué. Donc, pour pas tout mélanger, parce que entre GCO, prison de Lutterbach, ou Stocamine, c'est quand même assez. Il y a des choses différentes. Là, précisément pour Stocamine, en fait, c'est des déchets. Et qu'est-ce que pourrait se dire un habitant lambda? Ces déchets, ils sont là. Il faut bien en faire quelque chose. Voilà pourquoi, en fait, les opposants vont dire non, mais en fait, on peut les laisser à la surface. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'ils font dans certains. C'est comme ça qu'ils font en Suisse, comme on dirait, quoi. Mais voilà, ça va pas plus loin. C'est juste pour convaincre l'habitant lambda qu'en fait, non, mais en fait, il y a quand même une forte résignation à ça. Genre, ben, en fait, ils sont là. Il faut bien en faire quelque chose. Et que par ailleurs, c'est une région qui est complètement sinistrée justement de la fin des mines. Donc en fait, c'est concrètement le cadet des soucis des gens, ces problèmes-là. En fait, donc bon, et puis par ailleurs, enfin voilà, le Ouais, voilà, ça y a un, y a un, je pense qu'il y a un réel problème de résignation. Voilà, c'est mon analyse, encore une fois. Et je vais faire une. En fait, le risque là, alors qu'il est, c'est que. Donc, suite aux décisions gouvernementales de continuer à enfuir, c'est que la résignation se soit encore plus marquée au fer rouge. En fait, bon, ben voilà, tant pis. Exactement comme on l'a vécu avec le GCE, où en fait. Mis à part 3-4 opposants, enfin j'exagère, mais mis à part une dizaine de personnes qui se sont installées à Copsheim, l'opposition après la construction, le début des travaux, en fait, a subitement cessé, en fait, et pas vraiment par résignation, c'est que ça paraît assez clair, quoi, en fait, mais qui paraît logique dans des circonstances où, en fait, surtout quand on croit en la démocratie et qu'en fait on se voit prendre sa parole, enfin, bah, c'est sûr qu'on n'y croit plus au bout d'un moment, mais que du coup, plutôt de combattre la démocratie, on va plutôt se dire ah bah en fait, enfin, on va plutôt se résigner, en fait, se dire bon, ben bah, voilà. Et du coup là c'est un peu ce qui risque de se passer, c'est que bon bah maintenant la décision a été prise, on ne pourra pas revenir en arrière, c'est trop tard, d'autant plus que ces déchets risquent de s'enfuir sur des tonnes de terre et du coup on ne pourra plus les sortir. Et voilà. Après la possibilité aussi, qui sait, hein, c'est tout de même l'écologie a le vent en poupe, hein, comme on dirait, donc. Qui sait, des Ende-Gelände pourraient arriver en France. Bon, c'est pas une opposition c'est une opposition qui est tout à fait critiquable. On peut en parler à un autre moment si vous avez envie de chercher là-dessus ou de taper sur Internet. Mais en tout cas, peut-être que l'opposition pourrait se renforcer suite justement au timing. C'est-à-dire que je crois que c'est. Enfin, que il nous est mis au tapis, que c'est assez clair qu'en fait là, il faut speeder. C'est-à-dire que si on ne se dépêche pas de sortir ces déchets, ils resteront bel et bien enfuis et inondés par la nappe phréatique. Et du coup. Je pense que voilà, il faut peut-être que ce timing-là pourrait en fait créer une espèce de nouvelle émulation, et peut-être que grâce à cette émission de radio, eh bien, des groupes se formeront pour aller faire ci ou ça contre ce projet. Qui sait? Voilà, j'en ai fini. Voilà, si vous avez des retours, des critiques, n'hésitez pas. Voilà, ma troisième partie était un peu plus bancale, bien sûr, mais c'est des j'essaie de mettre en travail des questions qui me questionnent. Voilà, en tout cas, manifestement, il y avait des choses à dire. Et du coup, je vais vous laisser sur une troisième chanson de Zone Infinie. Et puis, on reprend tout à l'heure pour quelques brèves. Voilà.
Quelque chose que je pense être, je cherche le mouvement, l'intensité, j'ai mis
Alors après ces pérégrinations longues et peut-être ennuyeuses, je vous propose quelques, comment dire, partages de lecture. Le concept, en fait, je vais vous proposer, vous raconter quelques bouquins que je trouve intéressants, et il est possible de me les demander, en fait, par email. Donc toujours à l'adresse email suivante, infokiosque@laposte.net. Il suffit de m'envoyer un email, je peux vous faire envoyer ces publications si vous le souhaitez, et puis on s'arrange pour ce qui est de l'argent. Donc le premier livre, donc c'est un livre, la première chose que je vais vous partager, c'est un livre qui s'appelle « Ni or ni maître, montagne d'or et consorts » par Gold d'Oracle, Que de la Gold et Gold de Bois, aux éditions du Couac. Donc c'est un bouquin sur l'exploitation de la mine de la montagne d'or en Guyane, et ça explique d'un point de vue, il faut le dire, je crois, d'un point de vue anti-autoritaire, l'exploitation de la mine d'or en Guyane, de son opposition et de ses perspectives. Et en fait, c'est vraiment très intéressant. Et aussi, on apprend plein de choses sur la gestion des mines, sur le BRGM dont je parlais tout à l'heure, mais aussi justement sur la suite de ça, c'est les mines en France. En fait, c'est vraiment plein d'informations. Et ça me fait dire aussi que, je ne sais pas si vous êtes au courant que la Terre a à nouveau tremblé à Strasbourg vendredi dernier, donc vendredi fin janvier, et que c'est toujours dû à ces opérations de géothermie qui en cours à Vendenheim, et qu'en fait, un sujet qui reviendra sûrement, et une opposition qui, j'espère, se focalisera sur les potentiels de lithium sous l'Alsace. Hein, donc le livre Ni or ni maître, en fait, c'est un bon point de départ pour après réfléchir à ce qui pourrait nous arriver en fait ce qui pourrait arriver en Alsace avec le lithium. Bon. La deuxième publication que j'aimerais partager avec vous. C'est une publication qui s'appelle La Fête des Acronymes. La Fête des Acronymes, c'est en fait un texte qui revient sur le débat d'utilité publique qui a eu lieu à Bure, et un peu qui en fait de la critique, qui parle des perturbations qui ont eu lieu, et qui en fait fait un peu la critique de la démocratie participative, et comment la démocratie participative participe par exemple à affaiblir une opposition à un projet. Donc ça on va dire ça fait écho avec ce dont on a parlé tout à l'heure autour de Stokami. Voilà, donc il est aussi disponible sur le site internet infokiosque avec un s.net. Vous pouvez le trouver en format brochure à télécharger ou à lire sur le site. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à m'envoyer un mail et je peux vous envoyer ça dans une jolie enveloppe. Et la dernière publication que j'aimerais partager avec vous n'a rien à voir pour ce coup-là avec la Terre. Celle-ci s'appelle « Se faire virer ». C'est très joli. Apparemment, c'est fait en réseau. Et c'est un texte d'une petite vingtaine de pages et qui, en fait, compte l'histoire d'une personne qui travaille dans un cinéma et, en fait, qui... on a ras-le-bol et qui décide de se faire virer. Et parfois assez poilant, parfois un peu tendu, mais je vous conseille la lecture, c'est même intéressant et ça peut nous donner quelques perspectives dans nos boulots si des fois on en a marre. Donc se faire virer, donc il n'y a pas d'édition, voilà, c'est le récit pourquoi, quand, comment. Et je vous, pareil, si vous envoyez un email, je le répète, à infokiosque@laposte.net, et ben je peux vous envoyer ça par courrier, donc n'hésitez pas. Et donc on va suivre maintenant avec un une rubrique, on va dire, un peu plus... une autre rubrique qui est celle de l'actualité dans les prisons, dans le Grand Est. Donc voilà, la prison, une petite actu dans le Grand Est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est important de parler de la tôle par ici. Encore une fois, c'est pas du tout exhaustif, c'est des recherches par-ci, par-là. Des informations que je trouve par-ci par-là, en fait, on n'en entend pas trop parler, pas assez, donc je propose cette rubrique pour cela. Donc voilà, tout d'abord, petite agression, une agression non pas d'un prisonnier, mais l'agression de plusieurs matons à la prison d'Épinal. C'est un détenu qui apparemment ne se laisse pas faire, hein, qui a lundi 25 janvier a été d'après FO pénitentiaire a tapé un maton, il a fait une agression gratuite d'après le FO pénitentiaire. Donc voilà, on souhaite du courage au détenu qui a été envoyé en quartier disciplinaire. En tout cas, oui, ce qu'il faut répéter, c'est que voilà, on est en plein Covid en ce moment. Les clusters, ça recommence. Pour l'instant, apparemment, j'en ai pas identifié dans l'est de la France, mais ça y est, plein de prisons, plein de clusters ont lieu au sein des prisons françaises. Ces lamentables syndicalistes de la pénitentiaire ne savent pas quoi dire à part de proposer de fermer les parloirs. Ils ne comprennent pas pourquoi les parloirs sont maintenus, disent-ils dans les journaux. On n'a qu'à leur dire qu'ils n'ont qu'à changer de métier. Par ailleurs, une petite information importante, dont on n'a pas beaucoup parlé non plus, c'est le suicide d'une détenue à Mulhouse. Une jeune détenue de 21 ans qui s'est suicidée le 4 janvier. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver de nom et de prénom. Mais en tout cas, je pense que c'est important de rappeler que la prison, c'est difficile. Donc il faut s'en rappeler et que c'est pas la seule qui se trouve à se suicider dans les cellules. Donc voilà, courage à eux. Maintenant, on va passer à autre chose, à l'agenda. Alors l'agenda, j'ai pas grand chose à vous proposer, mis à part qu'il faut regarder autour de chez vous pour les manifestations du samedi contre la loi. Sécurité globale. On va faire une petite transition sur la prison, donc c'est pas vraiment de l'agenda, mais sachez que vous pouvez trouver à propos de l'affaire du 8 décembre, de gens qui se sont fait arrêter le 8 décembre dans un contexte d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes criminels qui sont en prison en ce moment et que en fait ils vont passer en février, dans la première semaine de février, devant le juge d'instruction dans le cadre de l'enquête. Et donc il y a un appel à produire des banderoles et des visuels afin de réclamer leur mise en liberté. Il y a une caisse de soutien, vous pouvez trouver ça sur le site du comité de soutien de Rennes, soutien aux inculpés du 8 décembre sans accent, soutien aux inculpés du 8 décembre.noblog.org. Ça c'est une première chose. On rappelle aussi que le 12 février, il y a un procès pour trois opposants aux armes nucléaires qui sont convoqués le 12 février à 14h au tribunal judiciaire de Dijon pour avoir manifesté leur opposition à l'arme nucléaire. Rien que ça. Et pour finir, une mobilisation. Je le dis pour le lire. Jeudi 4 février 2021 à Strasbourg à 14h. La place Kléber, une mobilisation pour l'emploi, les salaires et le service public, donc appelé par la CGT, FSU, Solidaire, UNF, UNL, MNL, Fidèle. Voilà, au moins vous êtes au courant. Et voilà pour l'agenda. Maintenant, je vous laisse avec les binamés pour finir l'émission. Et voilà, c'était manifestement. J'espère que ça vous a à peu près plu. Peut-être à bientôt. N'hésitez pas à envoyer des critiques, des choses à mettre dans l'agenda, des choses que vous avez appris par rapport aux prisons, des conseils de lecture à la limite. J'espère vous retrouver un de ces jours. Je vous fais des gros bisous.